Le livre de l'Apocalypse est à manipuler avec des pincettes, tellement nous pouvons lui faire dire tout et n'importe quoi. Alors c'est un peu le livre que tout prédicateur, prédicatrice évite soigneusement de choisir pour le dimanche, jusqu'à aujourd'hui où vous, une bande de jeunes, demande justement d'ouvrir ce livre quasi interdit. Peut-être parce qu'il correspond le plus à cet univers fantasy que vous aimez fréquenter, peut-être parce qu'il reflète aussi la violence du monde qui vous entoure, et parce que vous nous avez confié être fatigué de relire et relire les histoires gentillettes du bon samaritain, de l'arche de Noé. L'Apocalypse, donc. Sinon, j'ai une jolie prédication sur Moïse sauvé des eaux. Non ? Ok. D'accord, l'Apocalypse. Alors, première piste pour entrer dans ce livre, l'Apocalypse, et c'est une méprise, est souvent lue comme un récit de fin du monde. Et il y a des gens qui passent leur temps à guetter ici et là des signes apocalyptiques pour essayer de calquer le livre avec la réalité actuelle et jouer aux oiseaux de mauvais augure. Ce n'est pas ma lecture. Tout simplement car les signes en question sont souvent localisés et ne peuvent pas être généralisés. Par exemple, quand la terre tremble à Bali, elle reste ferme à Paris. L'Apocalypse n'annonce pas la fin du monde. Deuxième piste, l'Apocalypse de Jean est lu comme un livre historique qui retracerait métaphoriquement le combat des Juifs, puis ensuite des premiers chrétiens contre l'Empire romain, symbolisé par la bête et le dragon qui vient de la mer, comme arrivaient les légions romaines dans le bassin méditerranéen. Il y a bien sûr de cela dans ces trois récits, mais comme la Bible est une parole vivante et pas un traité codé d'histoire, uniquement lisible par des spécialistes avertis, il nous faut trouver une troisième piste. Et la piste que nous suivrons prend sa source dans l'étymologie du mot « apocalypse ». Alors aujourd'hui, pour vous entraîner un peu, parce qu'on est à deux jours de la rentrée, on va faire du grec. Apocalypse, c'est la synthèse de deux mots, apocalypsis. Apo, ça veut dire loin, et calypsis, ça veut dire voilé. Donc littéralement, apocalypse, ça veut dire dévoilé. L'apocalypse n'est autre que la révélation de Jésus-Christ. Et en cela, ce texte bizarre nous concerne vraiment en ce dimanche matin de fin août 2020. Alors, avec courage, entrons dans l'enclos du chapitre 13 pour affronter ces deux affreuses bêtes venues l'une de la mer et de l'autre de la terre. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes un nom blasphématoire. La bête que je vis ressemblait au léopard, ses pattes étaient comme celles de l'ours et sa gueule comme la gueule du lion. Et le dragon lui conféra sa puissance, son trône et un pouvoir immense. Voilà une vilaine bête difficilement représentable, tellement elle est remplie de têtes, de cornes et de diadèmes. Ce serait drôle de lancer un concours de dessin pour les dessiner, mais à mon avis, nous n'arriverons qu'à des représentations monstrueuses et caricaturales. Il faut donc s'arrêter sur l'aspect symbolique des éléments qui nous sont proposés. Alors pour celles et ceux qui voudraient un peu fouiller un peu plus ces textes bibliques, vous pouvez aller relire cet après-midi, il ne fait pas bien beau, le chapitre 7 du livre de Daniel, où vous retrouverez 4 bêtes et exactement le même nombre de cornes et de têtes dans les 4 bêtes décrites par le prophète Daniel. Ce qui nous intéresse ici, c'est que cette première bête porte 10 diadèmes. Alors le diadème, couronne, c'est le symbole du roi, du pouvoir politique. Et d'habitude, on n'en porte qu'une. Et imaginez, la bête en porte 10. Quelle puissance, quel pouvoir. Et je pense que son apparition de la mer nous pose une question. Sous quelle seigneurie voulons-nous placer nos vies? Ou pour le dire autrement, quelle source nous fait vivre? Alors on peut le dire, la bête, elle, toute horrible qu'elle est, recueille un vif succès. Toute la terre entière suivit la bête. Effectivement, la bête a souvent tendance à être éblouie par ce qui est clinquant, par tout ce qui brille, et celles et ceux qui rugissent comme des lions, plus forts que les autres, reçoivent souvent l'adhésion des foules. Mais nous sommes toujours libres de suivre ou de ne pas suivre. Seulement, cette liberté que nous avons n'est pas évidente. Et parfois, il est difficile de discerner la nature d'un pouvoir. Comment discerner la nature d'un pouvoir? En regardant de près, sûrement, ce qui le constitue, ses objectifs, son apparence. C'est ce que nous allons maintenant faire pour cette première bête. Déjà, cette bête a quelque chose de malsain. On nous dit qu'elle provient du dragon, et avant, on nous a expliqué que le dragon est ce qui représente le pouvoir mauvais et qui a été chassé par Dieu du ciel. La deuxième chose aussi qu'on peut voir dans la description de la bête, c'est qu'elle est malhonnête. Oh, ça passe un petit peu comme ça en secret, mais la bête, en fait, elle essaye de se faire passer pour Jésus mort et ressuscité. On nous l'a décrit avec une plaie sur une de ses têtes, et après, on nous dit par trois fois dans le texte que sa plaie mortelle fut guérie. La bête simule la mort et la résurrection pour mieux tromper son monde. Gare aux usurpateurs. Remarquons aussi que la bête sait se vendre. D'ailleurs, elle suscite la deuxième bête venue de la mer qui assure son marketing. C'est elle qui va faire adorer la bête. Par de grands prodiges, elle suscite l'adoration de la première bête. Et là aussi, gare à la fascination sans réflexion. Pourtant, aujourd'hui, vous six, en recevant le baptême ou en confirmant les engagements pris pour vous au baptême, vous refusez l'attrait de la bête et vous vous engagez dans un chemin qui est sûrement moins évident que suivre la foule. Et vous suivez celui qui n'a porté qu'un diadème, une couronne d'épines, le jour de sa crucifixion, Jésus. Et vous vous engagez avec les saints de ce monde dans le combat contre l'apparence, contre la facilité. Et c'est un combat parfois tellement difficile. On l'a vu, les bêtes du livre de l'Apocalypse sont très très laides, mais celles que vous affrontez aussi dans votre vie sont terribles. Des fois, on croise de drôles de bêtes, des difficultés dans les études, les moqueries, les agressions verbales, physiques, la trahison, les doutes sur l'avenir. Toutes ces bêtes, vous les affrontez déjà. Mais il y a une promesse, un espoir dans ce texte. Car malgré la monstruosité de la bête, la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas invincible. Son chiffre est 666. 6, 6, 6. Après le grec, l'arithmétique. 6, 6, 6, si vous ajoutez 1 à 6, 6, 6, ça vous donne 7, 7, 7. Et en fait, on pense que le 6, 6, 6, le nombre de la bête, est une pâle copie du 7, 7, 7, chiffre de la perfection de Dieu. Alors, bien que la bête ait voulu jouer à Jésus ou à Dieu, la puissance de cette bête reste donc limitée et inférieure à la perfection de Dieu. Et même le texte prend soin de nous dire que la puissance de la bête est limitée, elle reste à hauteur d'homme, puisqu'on nous dit que ce chiffre est un chiffre d'homme. Alors rappelez-vous cela dans les moments sombres que vous traversez que vous appartenez au camp de la victoire, celle du Christ ressuscité. Mathilde, l'Éternel est le soutien de ta vie, le Seigneur sera toujours avec toi. Noémie, ton refuge est dans l'Éternel, il te guide sur le chemin de vérité. Lilian, confie-toi pleinement en Dieu, ses paroles d'amour te font grandir. Marc Thomas, Dieu le Père Tout-Puissant te soutient à chaque pas ou faux pas de ta vie. Thibaut, tu choisis le bon berger en te laissant guider par l'Éternel. Thomas, en acceptant d'être fils de Dieu, tu poursuis dans la voie lumineuse. Et rappelons-nous aussi, nous tous et toutes, dans ce temple, que celui ou celle qui a des oreilles entende les promesses de Thomas, Thibaut, Marc Thomas, Lilian, Noémie et Mathilde. Et ces promesses résonnent aussi dans nos vies, dans ce qu'elles ont de difficile, de routinier ou de lumineux. Frères et sœurs, c'est l'heure de la persévérance et de la foi des saints. Et malgré tout, malgré les apparences très rudes et sombres du combat impitoyable décrit dans ce livre de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse est aussi le livre de la joie. C'est son auteur qui nous le dit, Jean de Patmos l'affirme en préambule, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie auxquelles fait écho, heureux celui, celle qui garde les paroles de cette prophétie. » Il m'a été rapporté comme ça que vos séances de caté étaient souvent plutôt joyeuses et qu'aujourd'hui vous voyez ce beau dimanche tout en rose, en gens heureux. Alors poursuivez ainsi, dans la joie, heureuse, heureux, êtes-vous d'avoir inscrit votre nom dans le grand livre de vie. Amen.